Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre balade musicale. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi matin. On est ensemble, comme d'habitude, jusqu'à midi. Musique baroque aujourd'hui. Au programme, Jean-Sébastien Bach, avec des cantates magnifiques et la transcription pour le piano de la fameuse chaconne pour violon seul. Mais avant Jean-Sébastien Bach, nous aurons le grand plaisir de pouvoir dialoguer avec la pianiste Natacha Kudrytskaya au parcours singulier dont la trajectoire se tisse entre l'Ukraine et la France. Elle publie sous le label « Mille et une notes » un nouvel album entièrement consacré à François Couperin, une figure majeure de la musique baroque.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bonjour Natacha Kudrytskaya.
Bonjour, bonjour Christophe.
Ravi de vous accueillir dans notre balade musicale sur IDFM Radio. Votre apprentissage pianistique a été marqué par une double culture, à l'Académie nationale Tchaïkovski de Kiev dans votre pays, l'Ukraine, et à Paris, au CNSM, avec Alain Planès et Jacques Rouvier, et à l'École normale de musique avec Henri Barda. Vous êtes régulièrement invité à vous produire dans les grandes salles et festivals de France et d'Europe. Vous collaborez avec de nombreux orchestres européens, vous donnez des masterclass en France et à l'étranger. Le répertoire français occupe une place centrale dans votre démarche artistique. Vous avez consacré à Jean-Philippe Rameau un remarquable album en 2012 chez Mille et une notes. En 2015, il y a eu l'album Nocturne chez Deutsche Grammophon avec un programme Debussy, Satie, Fauré, Ravel. Cette année, vous sortez un très beau disque Couperin chez Mille et une notes. Pourquoi ce lien particulier avec la musique française, Natacha Kudrytskaya?
En arrivant en France pour faire mes études, justement, ça venait de soi. J'arrivais en France, je trouvais que c'était naturel de se pencher sur ce répertoire-là, qui était déjà abordé quand même en Ukraine. On jouait de la musique française, on jouait un petit peu de Debussy, un petit peu de Ravel, mais de se plonger plus dans la musique baroque, ça c'était une vraie découverte pour moi, parce qu'on joue plutôt peut-être du Bach et du Scarlatti, on jouait beaucoup moins la musique baroque française. Et puis j'avais la chance d'avoir mon professeur génial Alain Planès, qui s'intéressait beaucoup aux instruments de l'époque, et qui m'avait donné le goût, l'intérêt, aussi m'a fait découvrir toutes ces partitions avec les nouvelles éditions, et m'a fait plonger dans cet univers-là. Voilà, à vrai vous dire, je suis arrivée de l'Ukraine un jour avec une espèce d'édition terrible d'anthologie de la musique française, que je trouvais, je ne sais plus dans quel tiroir. Et donc mon professeur Alain Planès m'a dit « mais quelle horreur !» Donc il y avait une gavotte de Rameau dedans, et je dis « non, mais tu vas jamais jouer ça, tu vas prendre l'édition Barenreiter et tu vas me jouer et travailler toute la suite. » Donc l'histoire est partie de là.
Et comment avez-vous sélectionné les pièces du florilège qui figurent dans votre nouveau disque Couperin ?
C'est toujours un parcours, parce que évidemment il faut faire attention, tout ne fonctionne pas sur le piano, sur l'instrument moderne, c'était écrit pour un autre instrument, et quand on est perdu un peu sur le piano, la réponse est simple, on se met sur le clavecin et on comprend beaucoup de choses, parce que comme cette musique-là, pendant un long bout de temps, n'était pas jouée, car après les révolutions françaises, tous ces compositeurs-là qui étaient à la cour du roi étaient
blacklistés en quelque sorte.
Pardon ?
Étaient blacklistés, si on peut dire.
Voilà, c'est ça. Donc on a perdu ce lien direct avec les gens qui savaient comment on la jouait, pas comme avec la musique de Chopin ou Beethoven, parce qu'on a toujours un lien. On a toujours un professeur qui sait, parce que ça lui vient de son professeur, qui connaissait l'autre professeur, qui connaissait Chopin ou Liszt. Et ce poids de savoir disparaît avec la musique baroque française. Et je trouvais que c'était génial de se libérer de ça et de travailler par soi-même.
Alors, cette musique a été composée pour le clavecin, comme vous l'avez rappelé, puisque le piano n'existait pas. Alors, il y a toujours cette question qu'on se pose. Est-ce que c'est historiquement informé, j'allais dire, de jouer sur un clavecin? Et est-ce que ça peut être considéré comme une trahison d'interpréter ces musiques baroques, et notamment Couperin, sur des instruments modernes?
Je pense que ça l'est, par certains. Mais ce n'est pas très grave. Je pense qu'il y a des gens qui considèrent que c'est une musique qui doit être jouée sur les instruments modernes, sur les instruments de l'époque. Et je suis complètement, j'entends, parce que elle a un sens, ça a du sens. Cette musique-là a une vérité certaine quand on joue sur les instruments de l'époque. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se priver, mais ça c'est que mon point de vue, de la beauté de cette musique pour la rendre quelque part plus accessible. Évidemment, moi sur le piano moderne, je me pose énormément de questions. Il y a beaucoup de problématiques. On est perdu niveau tempo, on est perdu parce qu'il y a une espèce de rubato qui s'installe absolument naturellement quand on se met sur le clavecin. Sur le piano, c'est complètement différent. Les tempi dépendent beaucoup du son que produit le piano, qui est beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus prolongé, alors que sur le clavecin, le son disparaît. On le prolonge parfois avec l'ornementation. Donc il y a tout un monde à retravailler. Et je pense que ça permet de la démocratiser un petit peu, cette musique-là, de la rendre plus accessible quand on le joue sur le piano. Et moi, j'ai pas de clavecin chez moi, et j'adore travailler cette musique-là, la faire découvrir sur le piano de notre époque.
Eh bien, nous allons la faire découvrir sous vos doigts, Natacha Kodritskaya, avec les fameuses barricades mystérieuses de Couperin.
Thank you.
Les Barricades mystérieuses de François Couperin, interprétées par notre invitée en balade musicale sur IDFM Radio, la pianiste Natacha Koudritskaya. Je reviens sur cette discussion que nous avons eue, clavecin, piano moderne, puisqu'il y a eu de très très grands pianistes. Je pensais à Glenn Gould, Vladimir Horowitz, Marcel Meyer, Sviatoslav Richter et aujourd'hui Murray Peraya, Grégory Sokolov et beaucoup d'autres qui interprètent la musique baroque sur des pianos modernes, et ça peut être absolument merveilleux d'ailleurs.
Moi, ça donne encore une fois cet esprit de liberté, d'une douceur, et nous faire découvrir ce répertoire-là, voilà, cette musique-là qui n'était pas du tout jouée jusqu'à la fin du 19e. Donc on a toute une histoire encore à construire.
Alors, techniquement, comment fait-on, justement, parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que les touches du clavecin, les sonorités, le rubato, tout ça est très très différent avec un piano, donc ça doit être assez compliqué tout de même à rendre.
C'est tout ce travail-là, c'est-à-dire que ça nous pose beaucoup de problèmes au départ. Et en même temps, ça nous ouvre une multitude de possibilités. C'est-à-dire, c'est comme Bach aussi, quand vous entendez jouer Glenn Gould dans l'enregistrement, il peut prendre un tempo mais extrêmement lent et puis d'un coup partir avec le même morceau à toute blinde et ça va prendre complètement une autre allure et ça fonctionne, ça marche. Donc s'il y a une conviction derrière, artistique, cette musique est assez magique parce que elle est comme un peu une pâte à modeler qu'on arrive à façonner et évidemment on peut pas faire n'importe quoi et justement si on est complètement perdu, la réponse se trouve, moi je trouve, dans les instruments de l'époque. On comprend vite là on peut pas du tout aller ou ça devient absurde et ça nous guide un peu. Et puis, il y a beaucoup quand même d'explications aussi par Couperin et Rameau. Ils ont fait des écrits sur l'art de toucher le clavecin, sur comment on travaille, comment on doit l'interpréter. Donc, on a quand même quelques clés. C'est pas comme si on était complètement abandonné. Mais ça fait un travail très intéressant à accomplir, sans une pression de ce savoir absolu.
Mais l'essentiel, je dirais, c'est de, quand on est un artiste, c'est d'ailleurs, on sent les choses, on étudie et on le fait comme ce qui vous paraît finalement le mieux pour défendre l'œuvre et ce qui fera forcément, ce qui aura un effet et le public d'ailleurs s'en rend compte. En fait, on peut interpréter d'une manière un peu différente. Je pensais à Glenn Gould qu'on évoquait, il a fait plusieurs versions de ces fameuses variations Goldberg. Mmh. La première et la deuxième ne sont pas exactement les mêmes, les tempos sont parfois même un peu différents.
C'est un apprentissage de toute une vie. Je pense qu'on change, ça change. Quand on travaille les monuments pareils, forcément, notre vie joue un rôle. Ce qui se passe, on ne joue pas de la même manière quand on jouait quand on est jeune, quand on joue peut-être très vite. Et c'est comme ça, hein, quand on est jeune, il faut qu'on joue vite. On a
besoin d'énergie,
on a besoin. Et après, quand on vit, on réfléchit, on trouve autre chose à dire, on a besoin de plus de temps. Je ne sais pas, peut-être pas forcément dans cet ordre-là, mais c'est forcément lié avec ce qu'on est et ce qu'on vit.
Alors, on va écouter un deuxième extrait dont le titre m'interpelle un peu. Le double du Rossignol. Pourquoi le double, Natacha?
C'est une variation. C'est des variantes, en fait. Chaque fois, il écrit une pièce et après, il la varie, comme on dit à l'époque baroque. Donc, c'est à peu près sur le même thème, mais il rajoute plein d'autres ornementations. Voilà, inspiré de chants de Rossignol.
Eh bien, écoutons le double du Rossignol par notre invitée, Natacha Koudritskaya.
Thank you.
la musique de François Couperin par notre invitée en balade musicale sur IDFM Radio, la pianiste Natacha Koudritskaya. C'était le double du Rossignol. Natacha, êtes-vous retournée en Ukraine depuis l'agression de la Russie, entièrement responsable de cette guerre effroyable qui dure depuis plus de 4 ans ?
Oui, je suis allée voir mon papa l'été dernier, et parce que lui, il n'y a pas moyen de le faire sortir de là-bas, parce qu'il n'a pas envie, hein, surtout il le refuse, mais il n'a pas envie. Donc je suis allée le voir, et c'était un voyage terrible et génial à la fois, parce que d'un côté, j'avais besoin de me réapproprier cet espace-là, parce que j'avais l'impression qu'on me coupait ma vie, j'arrive pas, je peux plus y aller, je peux plus emmener mes enfants, alors que c'est très important pour moi, le lien avec les gens qui habitent là-bas, évidemment. Et donc, d'y aller, de passer du temps avec mon frère, avec mon père, la vie continue, c'est ça qui est incroyable, il y a une résilience absolument magnifique, douloureuse, et en même temps, c'est habité, voilà, c'est pour les gens qui habitent là-bas, et ils ont embrassé cette idée-là de résistance. Je pense que ils continuent de vivre comme ils peuvent, d'une manière la meilleure qui soit pour leurs enfants, en sachant que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Tous les jours, ils prennent une décision. Tous les soirs, ils savent qu'il y a des shahedes, les trucs qui volent partout dans le ciel, qui peuvent s'abattre sur eux, et ils doivent prendre une décision. Est-ce qu'ils descendent la nuit dans les avries, ou est-ce qu'ils, tant pis, et puis cette fois-ci, on reste, et voilà. Et puis, mon frère, il a vu ses fenêtres voler un jour, c'était le jour où ils ont décidé de descendre, quand même, dans le garage. C'est une vie qu'on ne peut pas se représenter, et en même temps, c'est une vie folle de vie, de joie de vivre, de besoin de vivre la culture, parce que j'ai jamais vu autant de concerts, autant d'expositions, l'opéra, oui. Théâtre, tout fonctionne à plein régime, il y a au moins 2 concerts par jour à la Philharmonie tous les jours, les salles sont pleines, et c'est vraiment à l'image de ce peuple qui a décidé... En fait, je pense que l'idée de ces gens, ceux qui sont sur le front surtout, c'est qu'ils ont accepté que cette guerre, c'est leur destin, c'est pour ça qu'ils sont là. Il n'y a aucune raison de s'arrêter là, parce que s'ils s'arrêtent, ça va continuer et c'est leurs enfants qui vont porter ce fardeau. Donc, la seule chose qui compte, c'est d'aller jusqu'au bout pour que ça ne continue pas, pour que ça s'arrête pour leurs enfants.
Voilà. C'est un bel exemple à méditer. Mais dites-moi, Natacha, avez-vous donné des concerts depuis l'agression russe en Ukraine ?
Non, j'ai pas joué en Ukraine encore, non.
Mais vous êtes à l'initiative d'un très beau projet, Music Chain for Ukraine. Dites-nous quelques mots de ce projet, Natacha Koudritskaya.
Oui, c'était une association que nous avons créée au début de l'agression russe, justement pour accueillir et venir en aide aux musiciens, artistes ukrainiens qui se sont retrouvés réfugiés. Dans les pays, évidemment, quand on est artiste, on n'arrive plus forcément à exercer son métier. Et on fait autre chose pour survivre. Donc, on a essayé de leur donner la possibilité justement de se produire, de faire le lien avec les artistes européens, d'essayer d'imaginer d'autres projets. Donc, on a organisé pas mal de concerts pour les jeunes, pour les artistes confirmés. Et nous avons créé aussi une chorale de femmes réfugiées, donc dans Paris et dans les alentours, qui habitent autour de Paris. Et c'est un chœur vraiment très touchant et qui est dirigé par une chef de chœur ukrainienne professionnelle avec qui moi j'avais fait les études quand j'étais à Kiev. Elle s'appelle Alissa Letak et elle dirige ce chœur avec tellement de d'engagement et tellement de d'amour et que on dirait pas que ce sont des amateurs. Vous voyez, après on a une grosse culture quand même musicale dans ce pays-là et ils ont envie de chanter. Donc toutes ces filles-là, vous avez des ingénieurs nucléaires, vous avez des médecins, des philosophes, des cinéastes, et voilà. Et donc c'est un projet un peu social, musical. Elles se retrouvent toutes les semaines pour chanter la musique ukrainienne. Maintenant, ils chantent aussi la musique française et sont applaudis dans plein de salles. Évidemment, c'est génial parce que pour elles, c'est important aussi de porter un peu une pièce à l'édifice et défendre la culture ukrainienne quelque part. Donc maintenant, ils ont créé leur propre structure. Ils existent par elles-mêmes. Ça s'appelle le chœur Ukrainaissance. Et ils vont chanter en première partie de concert, de présentation de mon disque Couperin le 10 avril à Gao.
Formidable. Eh bien, on va revenir à votre disque Couperin, L'Anguille, sur un tempo rapide, Natacha. L'Anguille, l'une des pièces issues des 27 ordres pour clavecin de François Couperin, interprétée au piano par notre invitée en balade musicale sur IDFM Radio, Natacha Koudritskaya. Extrait d'un très beau disque qui sortira le 10 avril, le jour de votre concert parisien à la prestigieuse salle Gaveau, que vous évoquiez juste avant que l'on vous écoute dans L'Anguille de Couperin. Ce sera un concert pas comme les autres. Pourquoi, Natacha?
Alors, c'est un concert que nous avons décidé d'accompagner par un théâtre d'ombre. Alors, théâtre d'ombre, on voulait le faire au début, le vrai théâtre d'ombre, sauf que c'était évidemment assez compliqué, parce que dans toutes les salles, on ne peut pas vraiment cacher la personne qui anime ces ombres-là derrière, surtout que quand il y a des balcons, il faut le noir complet. Donc, on a compris que c'était très compliqué pour envisager d'autres salles de concert. et on a décidé de le filmer. Donc c'est un film de théâtre d'ombre. Et par le biais de ce film, j'avais envie de d'évoquer des choses qui me touchent. On a envie, les artistes parlent la plupart du temps de leur histoire, de ce qui les anime, et j'avais envie de parler du vivant globalement, de la migration aussi, parce que quelque part je me considère un petit peu une immigrée aussi, puisque je suis venue en France à cause de la catastrophe de Tchernobyl la première fois. Et donc si je parle de ça, c'est pour faire le lien avec le théâtre d'ombre. Donc on va aller y parler du vivant globalement. Voilà, le vivant me manque. J'ai l'impression d'être de plus en plus coupée du monde du vivant. Voilà, on habite dans les jungles de pierre qu'on s'est construite et complètement déconnectée. J'ai l'impression parfois de vivre dans un roman de Barjavel. Donc j'avais envie d'évoquer ce sujet-là, beaucoup à travers les oiseaux, parce que Couperin fait souvent l'allusion dans ses œuvres, comme tous les grands musiciens, il était visiblement sensible à ce qui l'entourait. Ses suites, on dirait qu'il nous propose une promenade justement bucolique dans les environs du bassin parisien. Et parce que ces oiseaux-là sont devenus aussi les symboles de disparition du vivant, provoquée par l'activité humaine. Voilà, leur migration n'est plus guidée par la nutrition, mais devenue vitale à cause des guerres, le changement climatique, les catastrophes environnementales, comme la mienne, un peu. Et voilà, j'avais envie de faire ce parallèle entre les oiseaux, les hommes, vu que nous migrons maintenant pour les mêmes raisons. Ça devrait nous poser quelques questions, et c'est ce que nous avons essayé de faire tout en douceur.
Écoutez, j'ai vu des extraits sur
les oiseaux qui sont magnifiquement découpés par Leslie Logéro et notre marionnettiste, et filmé par Benoît Lahose, qui a mis évidemment sa patte pour animer ce film-là. Et voilà, pour dire que c'est pas désagréable de voir le théâtre d'ombre sous la musique de Couperin.
C'est pas désagréable du tout, c'est même très poétique, car j'ai vu ce matin, vous m'avez envoyé des extraits vidéo de cette création, donc qui aura lieu à la salle Gaveau le 10 avril prochain. C'est très poétique, c'est tout à fait lié à la magnifique musique de Couperin. Comment peut-on réserver ses places pour ce concert événement, j'imagine, sur le site de la salle Gaveau?
Je pense. Sincèrement, j'imagine que c'est ce qu'il y a de mieux.
Et après ce concert donc du 10 avril, qui va être vraiment superbe, avec vraiment vous au piano, avec cette musique très poétique de Couperin, et puis ces vidéos, il y aura une tournée.
Il y aura une tournée. Alors, je joue plusieurs fois. Alors, on joue à Limoges, on fait le concert à Limoges le 5 mai. Et après, à Reims, aux Flâneries de Reims, où Rameau sera malheureusement sans les images, Couperin. Et après, moi, je pars, parce que je joue pas mal à l'étranger, donc je vais partir en Allemagne, aux Pays-Bas, et en Italie, et je vais le présenter ce programme-là là-bas, et après en Grèce même, au mois de septembre. Voilà.
Eh bien, avant de se quitter, on va vous écouter dans la célèbre et virtuose pièce de Couperin, le Tic-Toc Choc. Thank you. Le TikTok choc de Couperin par notre invitée en balade musicale sur IDFM Radio, la pianiste ukrainienne Natasha Kudrytskaya, qui sort un magnifique enregistrement faisant le plein de poésie, d'élégance et de douceur sous le label Mille et Une Notes. Merci beaucoup Natasha Kudrytskaya.
Merci à vous.
Bonne journée et très bon concert.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Après le très beau disque Trinitatis que nous avions présenté l'an dernier, l'ensemble Le Banquet Céleste poursuit son exploration des cantates de Jean-Sébastien Bach avec la sortie de l'album Mein Geist chez Alpha Classics. La cantate BWV 115 en français « Tiens-toi prête, mon âme » a été composée à Leipzig pour le 22e dimanche après la Trinité, le 5 novembre 1724. Écoutons le chœur d'entrée.
Thank you.
Jean-Sébastien Bach, chœur d'entrée de la cantate BWV 115 par le Banquet Céleste. Le quatrième mouvement est une aria où la flûte et le violoncelle piccolo jouent une musique de chambre à laquelle le solo de la soprano Céline Chine ajoute une noble cantilène.
Thank you.
magnifique aria chambriste de la cantate BWV 115 « Tiens-toi prête, mon âme » par Céline Sheen, soprano, et les musiciens du Banquet Céleste. Le choral de clôture est une disposition en quatre parties de l'appel final. Aussi, soyons toujours vigilants, implorons et prions. Jean-Sébastien Bach, c'était le choral de clôture de la cantate BWV 115 par l'ensemble Le Banquet Céleste. Extrait d'un très beau disque proposant aussi la cantate BWV 85 « Je suis un bon berger » écrite un an plus tard à Leipzig en 1725. On en écoute le troisième mouvement, un choral orné confié à la soprano et interprété dans le disque par Céline Sheen. Thank you. C'était le chœur central de la cantate BWV 85 de Jean-Sébastien Bach avec Céline Chine soprano et l'ensemble Le Banquet Céleste. Une très belle réussite discographique sortie sous le titre Mind Guest chez Alpha Classics.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Jean-Sébastien Bach encore, mais transcrit et transfiguré par Ferruccio Busoni. La pianiste Nour Ayadi, dont nous avions présenté le précédent CD dans notre balade musicale, signe son deuxième album chez Scala Music sous le titre « Ombre et vision ». Écoutons sa très belle interprétation de la monumentale et admirable chaconne, cinquième mouvement de la partita numéro 2, écrite à l'origine par Bach pour violon seul. Cette chaconne était considérée comme une apothéose du répertoire pour violon seul de l'époque. Elle demeure, à l'évidence, un sommet de la musique d'une durée d'un quart d'heure.
Thank you.
Mouraïadi était l'interprète inspirée de la chaconne de Jean-Sébastien Bach dans la transcription pour piano de Ferruccio Busoni. Extraite du nouvel album de la brillante pianiste Mouraïadi, sorti chez Scala Musique, qui contient aussi des pièces de Busoni, Schubert et Liszt, sur lesquelles nous reviendrons dans une prochaine émission. C'est sur ce chef-d'œuvre de la musique que nous refermons notre balade musicale. Je vous donne rendez-vous demain dimanche à 11h. Merci à Nicolas à la technique. Et d'ici là, restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio. Les musicales de Sartrouville. Festival de musique classique du 10 au 12 avril 2026. Trois concerts exceptionnels avec des artistes internationaux parmi les plus talentueux. La musique classique, accessible à toutes et à tous, avec les œuvres du grand répertoire. Vendredi 10 avril à 20h, Église Saint-Joseph de Sartrouville, cordes romantiques, Paganini, Sarasate, Granados, Piazzolla, Vadim Tchijik, violon, Frédéric Bernard, guitare. Samedi 11 avril à 18h, Église Saint-Martin de Sartrouville, voyage dans le temps, Bach, Vivaldi, Schubert, Popper, Saint-Saëns, Ravel, avec le duo Del Angel, Eric Courrèges, violoncelle, Sébastien Mazoyer, accordéon. Dimanche 12 avril à 17h, espace Gérard-Philippe de Sartrouville, musique de l'Orient Express, Dvorak, Souk, Bartok, Vadim Tchijik, violon, Armin Varvarian, piano. Tarif à partir de 8 euros. Renseignements et réservations 06 62 70 17 64. Concert pour tous à gmail.com. www.musicaldesartrouville.com. www.billetweb.fr.